les rapporter ici ?
Bah, on apprend à être ferme, mais doux en même temps, et pouvoir s'occuper du cheval correctement et en lui apprenant des choses correctes et pas... Enfin, voilà.
Bah, par exemple, on fait ce qu'on appelle de l'équitation éthologique. Enfin, ici, on parle plutôt d'équitation comportementale. C'est la même chose, mais c'est juste le nom qui change.
Enfin, lui apprendre à faire des choses avec nous et pas contre nous ou des choses comme ça. Et je trouve que la relation avec l'animal, c'est quelque chose qui est très beau et très fort et que rien peut séparer en gros quelqu'un avec son animal. Et, ouais. Et j'adore la nature, les animaux.
C'est beaucoup plus plaisant. Enfin, moi, je me fais beaucoup plus plaisir à travailler un cheval qui prend aussi plaisir à travailler que... Qu'un cheval qui le fait parce qu'il doit le faire, mais qui ne voudrait pas le faire.
J'aime être avec le cheval, le chouchouter, le monter, faire des choses avec lui.
Il me porte un peu de confiance en moi, et quand je me sens pas très bien, par exemple, je pense à mon poney et ça me fait du bien.
La relation qu'on peut avoir avec son cheval, je la trouve plus... En fait, on essaye plus de comprendre le cheval. Que de l'approcher, de le monter comme ça, alors que dans l'équitation classique, je trouve que c'est moins, on essaye moins d'être dans la tête du cheval.
Mais la plupart des écoles d'équitation classique ont juste quelques paddocks où ils mettent leurs chevaux, mais sinon, il y en a peu qui ont 10 hectares de pré à disposition où tous leurs chevaux quasiment vivent au pré plutôt qu'en boxe. C'est vrai que ça, c'est une différence assez notable, c'est qu'ici, les chevaux passent maximum 4 heures au box dans leur journée, plutôt que 23.
J'aime bien la complicité qu'on peut avoir avec son cheval, je trouve ça... Je sais pas, c'est comme un ami.
J'aimerais bien que ce soit un petit peu dans mon métier, mais prendre soin d'eux, par exemple, s'ils ont par exemple, vétérinaire, par exemple.
Moi, j'aimerais vraiment réussir à combiner l'ostéopathie animale et l'équitation comportementale, en fait. Essayer de faire de la rééducation du cheval aussi bien sur le plan du travail du cheval que sur le plan physique.
Moi, je sais pas si je vais en faire mon métier, mais en tout cas, si je n'en fais pas mon métier, je reviendrai toujours dans un centre équestre, pour voir les chevaux et les monter.
C'est comme un enfant pour moi, c'est tout pour moi, je pourrais pas vivre sans.
Douce France. Cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance.
On est en France, alors on est en Normandie, c'est le nord de la France, plus précisément dans le Calvados, donc le département du Calvados, et encore plus précisément à Fierfol. C'est donc un petit village de, je sais pas, il doit y avoir 500 personnes. Et dedans, il y a le centre équestre de Fierfol, donc l'académie d'enseignement comportemental. Et c'est là qu'on est.
Oui, je t'aime.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice de cette école hors du commun. Comment est né ce projet en vous? Et ensuite, quel a été votre parcours jusqu'à sa réalisation?
Eh bien, j'ai été élevée en ville, donc ça a tout à fait surpris mes parents quand j'ai voulu me tourner vers les métiers du cheval. Et bien, quand j'avais 18 ans, les seuls cursus qui existaient, c'était de passer le monitorat. Donc c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait pas beaucoup d'éthologie à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Et l'équitation qu'on nous enseignait était déjà une équitation qui était issue de tout le travail du cheval, mais pour l'armée plutôt. Donc c'était pas vraiment très tendre. Par contre, au niveau pédagogie, on voulait déjà faire un effort pour que les personnes se sentent bien. Donc là, on avait quitté déjà le système militaire à cette époque-là, donc il y a maintenant 25 ans. Par la suite, j'ai passé un instructorat tout aussi classique. Donc j'avais 26 ans. Mais déjà, dès cette époque, je suis partie aux États-Unis, au départ complètement par hasard, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui pratiquaient les méthodes comportementales. Et plus particulièrement, Pat Parelli, mais aussi lors de l'organisation de ces Savvy Days, qui avaient lieu régulièrement au mois d'août, de rencontrer des gens comme Monty Roberts ou comme d'autres chuchoteurs qui ont été à la base de cette équitation un petit peu différente. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et puis, une fois que j'ai fait cette rencontre, j'ai appris. Et l'apprentissage, même quand on est instructeur des méthodes comportementales, ça prend du temps. Donc j'ai passé 2 ans, 3 ans à me former et à partir aux États-Unis régulièrement, puis à revenir. À la suite, bien sûr, j'avais vraiment envie de faire connaître toutes ces méthodes autour de moi et à mon entourage professionnel, à mes élèves. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 ans au Haras de la Sense, où on a développé les premiers stages d'équitation éthologique ainsi que les premières formations professionnelles. Et puis, après avoir, entre guillemets, testé un petit peu le démarrage des programmes pédagogiques sur ces méthodes, d'avoir testé justement ce que peut apporter la gestuelle, ce que peut apporter la théorie, l'observation. Voilà, ça c'était les prémices un petit peu de ces mises en place pédagogiques. Et par la suite, j'ai passé 3 ans à aller sur les routes et à donner des cours le week-end et à faire des rééducations de chevaux la semaine. Donc, ça a été extrêmement instructif parce que, au tout départ, dans mon discours, je disais, je ne sais pas si je saurais améliorer ou rééduquer votre cheval, mais en tout cas, je vais essayer. Et si vous constatez pas de changement, vous me payerez pas, comme ça vous ne risquez rien. Et bien sûr, je peux commenter mon travail, je peux vous expliquer ce qui se passe, je peux vous faire les commentaires en direct. Donc j'ai commencé comme ça et ça a été extrêmement extrêmement formateur parce que j'ai eu la chance pendant 3 ans de manger des nouilles bien sûr parce que c'était pas très rémunérateur parce que j'étais sur toute la grande couronne de Paris donc je passais plus de temps dans les embouteillages qu'avec les chevaux mais j'ai vu toutes sortes de problématiques différentes et ce qui m'a amené bien sûr à essayer de me dire pourquoi ces chevaux ont des problèmes. Et souvent, j'en suis arrivée à la conclusion que le petit poulain de 6 mois, de 8 mois, qui gambade à côté de sa mère, il a aucun problème avec l'humain. Il est curieux, il a envie de découvrir, il a envie d'offrir, il est généreux de par nature. Mais l'humain, en s'y prenant mal, peut faire qu'il y ait des incompréhensions qui s'installent et que cette masse puissante de 500, voire 600, 700, même jusqu'à une tonne de muscles, que cette masse puissante mette toute son énergie contre nous plutôt qu'avec nous et pour nous. Donc, une fois que j'ai analysé tout ça, j'ai avancé sur ma propre méthode d'éducation des chevaux pour que les gens aillent vers du plaisir. Et bien évidemment, en a découlé beaucoup plus de sécurité. Donc, tout ça, c'était suffisamment intéressant et surtout probant parce que même dans les rééducations, en fait, j'ai jamais connu un échec. Donc, tous les chevaux ont fait d'énormes progrès. Ceux qui ne voulaient pas embarquer, embarquaient. Ceux qui voulaient pas se laisser approcher par le vétérinaire, se laissaient approcher. Ceux qui ne se laissaient pas ferrer, se laissaient ferrer. Ceux qui ne voulaient pas rentrer dans les boîtes de départ en course, apprenaient à le faire. Ceux qui ne voulaient pas donner leur pied au maréchal ferrant, etc., etc. Et dès que j'ai plus pu arrêter de faire des kilomètres, et d'avoir mes propres installations pour que les gens viennent à moi plutôt que je passe beaucoup de temps sur la route à aller vers eux. On a ouvert l'école et ça fait maintenant 10 ans que on accueille les enfants, les adolescents, les adultes pour faire partager un petit peu toute cette expérience avec les chevaux.
Quelle est la plus grande activité, ou en tout cas l'activité qui prend le plus de temps dans la journée d'un cheval? Vous avez réfléchi?
Oui.
Vous êtes tous d'accord?
Oui.
Bon, concertez-vous.
Manger. Ouais, c'est ce que je voulais dire.
C'est quoi?
Manger.
Exactement, ça va être de se nourrir. Est-ce que vous savez pourquoi le cheval passe la plupart de ses journées à manger? Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est juste un gros gourmand?
Alors, en quoi cette école, justement, est-elle différente? Quelle est la différence, non seulement d'une école d'équitation traditionnelle, mais aussi peut-être d'une école comme La Sens, où vous avez été, qui est également basée sur l'éthologie?
Par rapport à une structure plus classique, le domaine de Firfol va orienter son enseignement sur à peu près trois parties. La première partie, c'est l'observation du cheval dans son contexte, dans son milieu, qui peut être le milieu naturel comme le milieu domestique. Donc on va vraiment essayer d'apprendre aux gens quels sont les critères observables. Qu'est-ce que veut dire une encolure qui descend? Qu'est-ce que veut dire les oreilles qui bougent, les yeux, la densité musculaire, une queue qui bat ou une queue qui est au repos, une patte en l'air ou une jambe par terre? Voilà, l'observation du cheval. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La deuxième chose, c'est qu'on a développé pas mal d'exercices qui nous permettent de travailler avec les chevaux sans eux, en entraînant la dextérité de la personne pour utiliser un moyen de communication et commencer à enseigner à son cheval, donc au travers soit de la corde, soit du stick qu'on peut utiliser aussi pour avoir la même envergure que le cheval en fait. Et puis, il y a toute la partie à cheval, bien sûr, mais dans les centres équestres traditionnels aussi, avec une philosophie un petit peu différente, dans la mesure où le cheval doit être collègue et doit être dans une ambiance de compréhension, et en tout cas d'un apprentissage qui soit un apprentissage dans le bien-être. Et bien sûr, on a développé la voltige, donc avec une cavalerie qui est vraiment entraînée, qui est habillée d'une certaine manière avec des énormes tapis, etc., pour que les gens puissent s'habituer à être en mouvement sur ce cheval en mouvement. Parce qu'évidemment, la position cavalière, c'est pas inné pour l'humain qui est plutôt un petit bipède bien terrien. Donc, on a développé aussi tout plein de gammes d'exercices ludiques pour que les gens apprennent à pouvoir rester en harmonie, en équilibre sur le dos du cheval.
C'est tout ce qu'on peut dire sur le cheval?
Il a différentes couleurs de robe.
Ouais, là on va essayer de parler de sa vie, pas de son aspect extérieur, mais plutôt de comment est-ce qu'il se comporte dans sa vie. Parce que là, si on essaye de savoir comment le cheval réagit, comment est-ce qu'il vit, comment il s'organise, comment il mange, etc., c'est pour ensuite, nous, pouvoir s'adapter. C'est de pouvoir s'adapter à lui et d'essayer de trouver un langage qui lui corresponde et essayer de, nous-mêmes, se mettre plus ou moins à la place d'un cheval pour essayer de le comprendre et communiquer avec lui. D'accord ? Donc on a dit qu'il vivait en groupe. Comment est-ce qu'il vit en groupe? Comme ça, il y a 5 chefs, 2 sous-chefs, un moyen chef.
Oui, vas-y. Il vit en harem, il y a un étalon qui est le chef, qui protège plutôt les juments.
Est-ce que c'est vraiment le chef, l'étalon?
Non, c'est la jument plutôt. Il y a une jument dominante aussi. Et c'est elle qui est en tête de troupeau normalement. Et l'étalon qui est derrière et qui. Voilà.
Quelles sont les qualités que développe la pratique de l'équitation éthologique en particulier?
Alors, si on reprend, ça va être des qualités d'observation où la personne, au fur et à mesure de son apprentissage, va pouvoir interpréter ce que dit le cheval. Est-ce que le cheval, il est content de me voir? Est-ce qu'il n'est pas content de me voir? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est très rassuré? Trop rassuré? Trop dominant? Voilà, donc savoir lire son cheval. Des qualités de motricité puisque on va pas monter que avec les mains et les jambes, mais on va avoir toute une série de codages. On va beaucoup travailler avec notre énergie, on va beaucoup travailler avec notre regard, avec nos sourcils, avec toute notre intensité corporelle et faciale pour discuter avec le cheval. Donc les gens apprennent à avoir cette dextérité quelque part, de pouvoir utiliser son corps pour dialoguer avec le cheval. Et puis c'est toute une philosophie où on apprend aux gens à apprendre à leur cheval. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est pas voilà, j'en suis au niveau galop 5, donc on me donne un cheval pour préparer le galop 6. Le cheval, il sait déjà faire le galop 6 et moi, j'apprends à positionner mes aides pour que le cheval fasse tel ou tel type d'exercice. Ça, c'est dans le système classique. Nous, on va donner aux chevaux, aux cavaliers, on va leur donner des chevaux qui ne savent pas faire beaucoup de choses et c'est, on leur apprend comment apprendre à leur cheval. Donc, au fur et à mesure, le cheval va travailler à pied en proche-approche, avec l'aide de la corde, puis il va travailler avec son cavalier à distance, toujours à l'aide de la corde, puis en liberté, en proche-approche, puis en liberté à distance, puis en liberté montée. Et là, on va pouvoir monter sur son cheval sans acier, sans éperon, sans cravache, sans selle, le plus naturellement possible. Voilà.
Avec une vraie communication entre les deux, une vraie connivence.
Voilà, alors c'est ce qu'on essaye de développer. On essaye de se baser sur les acquisitions de chaque personne. Chaque personne va avoir des acquisitions plus ou moins rapides, plus ou moins lentes. Mais on essaye, voilà, au fur et à mesure, quand ils en sont capables, de pouvoir leur apprendre à chuchoter.
On pourrait dire que c'est une éducation pour le cheval, mais également pour la personne qui éduque le cheval. Chacun s'éduque. Mutuellement, peut-être, on pourrait mettre ça comme ça.
On essaye de jamais le dire, de jamais en parler, parce que on se réfère toujours au cheval. C'est-à-dire que dans nos conseils à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte, on va mettre le point sur un critère observe, en disant tiens là, ton cheval. T'as vu, il tend son encolure, il ouvre l'angle tête encolure, il te regarde avec les sourcils légèrement froncés. Ça veut dire que tu vas trop vite, ça veut dire que t'es pas juste, ça veut dire que ton timing est pas bien réglé, ça veut dire que ton positionnement n'est pas clair, donc il est dans l'incompréhension. Mais on parle toujours du cheval, on va jamais dire à la personne, t'as vu, tu utilises mal tes mains, tu utilises mal ci, mal ça. On va toujours prendre le cheval comme repère, comme miroir en quelque sorte, pour que les gens puissent ne pas se sentir piégés. Mais bon, ils sont malins aussi. Et au bout de quelques temps, ils admettent de se remettre en question dans leur pratique. Et donc, au moment où ils s'en rendent compte et où ils l'admettent, et ben là, ils vont progresser énormément.
Ça, c'est merveilleux de se dire que c'est non seulement un sport, mais c'est aussi une manière de se développer soi dans la pratique.
Oui, évidemment. Et bien entendu, c'est aussi ce qui fait que les gens adhèrent au projet de Fearful, parce que ils ont, quel que soit le niveau, ils ont ils reçoivent un bonheur, ils reçoivent des bonnes choses. Et ces choses, bien sûr, sont transmises par le cheval, sont partagées dans l'écurie entière, sont partagées avec les moniteurs. Et du coup, ça donne toute une belle énergie qui permet et qui fait que les gens reviennent et reviennent et reviennent et voilà. Et parlent de nous aussi autour d'eux.
Tout à fait. En se promenant aujourd'hui, en me promenant dans vos locaux, dans cet espace qui est si naturel et si beau, on sent une belle harmonie, vraiment. Et les animaux qui sont là sont tout à fait éveillés d'une façon hors norme. Il n'y a pas que les chevaux, j'ai vu vos chiens, vos chats. Ils sont tous prêts à l'interaction avec l'humain, dans la confiance.
Oui, tout à fait. C'est souvent ce que nous disent les gens. Parce que quand ils arrivent de leur club habituel, souvent, les chevaux ne sont pas n'ont pas envie de rencontrer l'humain. Parce qu'ils sont plutôt à avoir une grosse carapace autour d'eux. Et dès qu'ils voient le cavalier arriver, ils ont plutôt tendance à se tourner, à se mettre dans le coin du box, parce qu'ils savent qu'ils vont vivre un moment pas très sympathique. Alors que c'est vrai qu'à Fearful, les chevaux sont aux portes des box, ils ont envie, ils se regardent, ils regardent où sont les enfants, ils suivent ce qui se passe dans l'écurie, et ils sont toujours prêts à échanger. Faut-il le dire aussi, ce qui est favorisant, c'est que Ici, les chevaux ne sont jamais pris à 14 heures par un cavalier, à 15 heures par un autre, à 16 heures par encore un autre. Mais le cheval est confié pendant une semaine entière à l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Ce sont toujours des stages de longue durée. Ce qui fait que le cheval garde sa générosité et n'est pas complètement rassasié d'un humain malveillant. En fait, il reste prêt à accueillir et à échanger. Et ça, c'est vraiment je ne le vois plus parce que ça fait des années que je travaille dans ces conditions, mais les gens qui ont d'autres expériences me disent que ici c'est ce qu'ils remarquent tout de suite, ouais.
Ça fait une vraie différence et comme le dit le petit prince, il faut du temps pour être apprivoisé et c'est le temps qu'on passe avec les autres aussi qui crée la valeur de la relation. Donc vous avez su créer ça et c'est palpable, c'est dans l'atmosphère et puis on voit effectivement en se promenant ces chevaux qui sont curieux, qui viennent vers vous, qui ont envie d'échanger, c'est tout à fait magique.
L'autre qui lui gratte aussi le garrot, enfin le rondevatige aussi, ils le font souvent. Ok, donc ça va être une autre activité, ça va être de communiquer avec les membres du troupeau. Mais il n'y a pas que les gratte-gratte, hein. Ils communiquent aussi autrement les chevaux. Et puis ils se parlent. Puis ils jouent. En quoi? En hennissant? En hennissant ou en hennissant? En hennissant, oui. Alors, justement, comment ils se parlent? C'est une bonne question, ça. Oui.
Par le corps. Les positions du corps,
par le langage du corps. Parce que vous dites, ils vont communiquer par hennissement, moi je veux bien. Mais si je suis un cheval, que je suis une proie, que derrière le buisson ou à un kilomètre un peu plus loin, je sais qu'il y a un tigre, un lion ou un loup qui attend qu'une chose, c'est de me trouver pour ne me manger, bah je vais pas me dire que je vais aller parler à mon copain en hennissant, en faisant du bruit. Bah non, ils ont trouvé un autre langage un peu plus discret. Ça va être le langage du corps. Ils vont s'exprimer avec leurs oreilles, avec la position de leur queue, avec la position de l'encolure, de la tête. Tout leur corps va pouvoir parler. Eux, ils savent parler avec leur corps. Exactement comme le langage des signes, chez nous les humains. Pareil.
À propos de l'actualité un petit peu du cheval, il y a un amendement qui vient d'être voté en avril dernier, qui reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Quelles vont être pour vous, selon vous, les conséquences de cet amendement pour le monde du cheval? Et est-ce que vous pensez que ça va permettre de protéger davantage le cheval et valider votre type d'approche?
Alors, je vous ferai une réponse en deux parties. Dans un premier temps, bien sûr que je suis très contente qu'on reconnaisse que le cheval a des sentiments, évidemment. Bien que nous, on le sache depuis déjà très longtemps. Donc, pour moi, c'est pas du tout une découverte. Je suis contente que ce soit reconnu, bien évidemment. Je pense que ça va vraiment forcer le respect dans d'autres milieux et notamment dans le milieu des courses où on ne va plus pouvoir envoyer à la boucherie, on ne va plus pouvoir martyriser, on ne va plus pouvoir mettre n'importe quelle mort, n'importe quel enrènement et ça va forcer le respect. Et ça, c'est très bien. En France, enfin, il y a toujours un l'envers de la médaille. Et en France, faut pas oublier qu'on est un des pays où on a, je sais même plus, mais entre 15 et 18 races de chevaux qui sont souchées, qui possèdent des studbooks qui existent depuis des centaines d'années. Je vous citerai par exemple le Ardennais, le Percheron, le Cobe Normand, le Mérins. Enfin, on en a 15 ou 18. On est le seul pays au monde qui a autant de races de chevaux, dont 5 ou 7 races de trait. Et bien entendu, si les chevaux, et c'est depuis plusieurs années que l'on constate, si les chevaux ne sont plus élevés pour la viande, il faut bien être conscient que les éleveurs ne vont plus élever du Percheron, du Boulonnais, de l'Ardennais, du Cobe Normand. Va y avoir une baisse de tous ces élevages. Donc par rapport à ça, je pense que Je ne suis pas d'accord pour tuer un animal, mais que ce soit une vache, un mouton, un cochon, dans des conditions de non-respect et des conditions inhumaines. Aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir tuer dans des conditions, dans des bonnes conditions, des conditions sans stress, etc. On pourrait le faire. La viande de cheval est excellente, est très bonne, etc. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de supprimer des élevages entiers de boulonnais, d'ardennais, parce que si ça n'existe plus, ces chevaux-là vont disparaître, bien évidemment.
Donc c'est à double tranchant, finalement, cette loi.
Oui, exactement, tout à fait.
Donc faudrait... En fait, je pense que quelque part, vous travaillez pour l'avenir du cheval d'une autre manière, pour qu'il soit peut-être reconnu sous un autre statut que bien meuble, comme il était avant, évidemment, mais aussi pas seulement pour la viande, mais un nouveau statut. Il faudrait inventer un statut au-delà d'animal de compagnie, mais animal de sport et de tourisme, par exemple, qui pourrait le protéger et peut-être valider cette activité, la développer.
Oui, oui, bien sûr. Tout ça est très compliqué. Il y a beaucoup de lobbying. Il y a beaucoup le monde des courses. C'est un milieu riche. C'est un milieu avec le PMU. C'est des millions qui sont brassés. C'est des subventions sur l'élevage des trotteurs, des galopeurs. C'est quelque chose d'énorme où nous, avec notre activité de loisir, on leur arrive pas à la cheville, hein, bien entendu. Mais où effectivement, il y a beaucoup d'animaux martyrisés. Et ça, il faut que ça cesse. On n'a pas besoin, pour la performance, pour galoper ou trotter plus vite, on n'a pas besoin de martyriser. Ça, je pense que si le public était plus sensibilisé à la souffrance de l'animal, plutôt que de voir des magnifiques images à la télé de chevaux qui franchissent la ligne d'arrivée, si on fixait un peu sur la caméra, sur le film, ce qui se passe dans les coulisses, je pense qu'avec un œil averti et des critères observables assez déterminés, on verrait que l'animal souffre et on n'est pas... Enfin, je pense que là, on n'a pas le droit, pour nos loisirs, pour nos paris, de faire souffrir l'animal. Faut-il pour autant que les filières de boucherie disparaissent? La question reste entière et je me garderai bien de statuer. À mon petit niveau, on achète les chevaux, on les fait naître, les deux sont possibles, on les utilise et quand ils ne sont plus utilisables, ce qui arrive très 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 tard, parce que en général... En France, un cheval de course à 9 ans, il est fini. Un cheval de club à 15 ans, il est fini. Nous, on va travailler avec nos chevaux jusqu'à 22, 23, 24 ans, 25 ans. Parce que tout va bien et qu'ils peuvent le faire. Par la suite, les chevaux ont une retraite bien méritée avec des copains dans un pré ou avec un propriétaire qui prend soin d'eux. Mais voilà, à notre petit niveau, on essaye de tout faire pour respecter l'animal et de servir peut-être un peu d'exemple.
Gratouille avec son poney, et ben on va pouvoir sortir le poney parce qu'on va les remettre dans les box. Donc on va faire un lâcher de poney dans les box.
Ouais.
Donc je vais vous demander de sortir du rond de Wolfie.
Moi j'ai commencé dans la filière classique d'abord, et en fait ça me plaisait, mais il me manquait quelque chose et je trouvais que c'était trop mécanique. On venait pour faire son heure d'équitation et on utilisait vraiment le cheval. Et les chevaux que je montais, je les aimais vraiment. Et j'avais envie d'avoir plus avec eux que juste l'heure d'équitation où on les utilise. Et en fait, j'avais très envie d'aller en sport-études. Et par hasard, je suis tombée sur le sport-études de Fierfol, qui a 3 ans. Et ça m'a énormément plu et je me suis dit tout de suite que c'était là qu'il fallait que j'aille, en fait.
Parce que les chevaux ils vont sortir. Allez, Tichou, allez, viens.
On peut voir sur votre site que vous offrez des formations en sport-études et autres, formations professionnelles pour devenir par exemple moniteur en équitation éthologique, mais aussi, ça c'est déjà encore plus curieux à lire, des stages de shiatsu avec le cheval, de massage équin, de yoga à cheval ou encore de clicker training. Est-ce que vous pensez que cela fait partie des métiers d'avenir ou des approches à développer ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a tous ces aspects autour du cheval. dans le bien-être, parce que on s'est rendu compte, hein, bien sûr, que le public qui vient apprendre le massage équin ou le shiatsu, le yoga, ils vont venir pour masser leurs chevaux, pour en fait apporter du bien-être à leur cheval. Mais au final, ils s'apportent du bien-être à eux aussi. Donc, je pense que tout ça, ça va se développer, bien entendu. Est-ce que c'est un métier d'appoint, de week-end, ou est-ce que c'est un métier à part entière? J'ai du mal à répondre à cette question pour l'instant. J'ai pas vraiment d'exemple flagrant autour de moi, mis à part en ostéopathie traditionnelle. Mais effectivement, pas mal de praticiens qui essayent de pouvoir en vivre, effectivement.
Donc, pour résumer, on pourrait dire que vous changez l'éducation du cheval pour une autre relation au cheval et un autre avenir.
Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une manière de voir qui petit à petit, effectivement, prend de l'ampleur, et petite goutte d'eau par petite goutte d'eau, on espère faire un jour une grande rivière, et que nos cavaliers, quand ils viennent passer des vacances à Firfol, puissent rentrer dans leur club, non pas en disant vous savez rien et je vais vous montrer parce que ce que vous faites c'est nul et donc voilà maintenant faut faire comme ça, pas du tout, mais pour qu'ils gardent à l'esprit que même si on fait comme ça, il y a une manière aussi de faire autrement dans l'alimentation du cheval, dans sa relation de tous les jours avec son soigneur, dans le fait de mettre des fers ou de ne pas en mettre, de vermifuger avec de l'ail ou non, de débourrer avec des cordes ou débourrer avec des enraînements. Enfin, voilà. Au moins, ils ont vu une autre manière de faire. Et comme on les prend tout petits, on espère qu'on a semé plein de graines et que tout ça, ça va pousser au fur et à mesure.
Tout le monde y gagne en plus.
C'est ce qui me semble. Donc, je pense que oui, c'est un univers auquel, bien sûr, il y a quelques années, personne ne croyait, que ce soit ma famille, mes amis, le banquier. Mais au fur et à mesure, on a pu prouver que c'était possible. On peut faire vivre les chevaux en troupeau. On peut leur faire passer l'hiver dehors. On peut ne pas les tondre. On peut ne pas les ferrer. Et pour autant, travailler, créer des emplois, créer des activités. Voilà. Donc, ma foi, je pense que voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes si tout ça, ça tendait à se développer. Voilà.
Merci de travailler pour l'avenir.
On fait le maximum. C'est épuisant, mais passionnant, bien sûr. Lancez-vous, parce que il n'y a pas que les chuchoteurs. Vous aussi, vous pouvez chuchoter demain.